Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques Munier. Bonjour à tous.
C'est l'heure des enjeux internationaux. Au sommaire aujourd'hui, la reprise en main du Cachemire, l'Inde laïque est-elle morte?
Oui, la situation de cet immense territoire au cœur de l'Himalaya a été trop brièvement évoquée ce week-end par les dirigeants du G7 qui recevaient le Premier ministre indien nationaliste. C'est lui, Narendra Modi, qui le 5 août dernier, après avoir, d'après les témoignages, fait évacuer tous les hôtels du Cachemire de leurs touristes étrangers, a fait savoir qu'il retirait à ce qui était jusqu'à présent un État indien son autonomie relative. Je rappelle que le Cachemire est divisé en deux depuis 1947, un Cachemire indien et un Cachemire pakistanais. C'est du Cachemire indien qu'il est question ce matin. Il compte 12 millions de personnes. Bonjour Charlotte Thomas.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes membre d'un collectif de chercheuses et de chercheurs en sciences politiques qui s'appelle le collectif Noria et qui a la particularité de privilégier l'approche de terrain. Vous êtes coordinatrice du programme Asie du Sud pour ce collectif Noria. Avez-vous des nouvelles des Cachemiris que vous avez rencontrés pendant vos années de recherche? Ça fait un certain temps que vous parcourez cette région. Est-ce que vous avez pu les joindre depuis le 5 août dernier?
Non, alors en fait, les nouvelles que j'ai sont plutôt des non-nouvelles, puisque les seules nouvelles qu'on a aujourd'hui d'une population cachemirie sont les cachemiris qui vivent en dehors de l'état du Jammu et Cachemire, donc du Cachemire indien, puisque comme vous le disiez, en fait, tout le Cachemire indien est fermé aux communications depuis le 5 août, donc internet, téléphone portable, mais également les voies de communication. Ça, c'est ce qu'on a su par justement le gouvernement et également les quelques journalistes qui ont réussi à y aller il y a à peu près 10 jours. Mais sinon, non, les Cachemiris indiens que je connais, en fait, sont ceux de New Delhi et qui, eux, mettent beaucoup de statuts Facebook ou de messages sur WhatsApp pour dire leur peine et leur inquiétude de n'avoir aucune nouvelle de leurs proches. Et je pense notamment à une personne qui a des parents assez âgés et malades et à qui elle n'a pas parlé depuis 21 jours.
Les journalistes dont vous parlez, ce sont ceux par exemple du Figaro ou de La Croix qui, pour certains, sont allés dans la vallée du Cachemire, dont certains villages, écrivent-ils, dégagent des émanations de gaz au poivre. Il faut dire que des renforts militaires ont été envoyés dans un pays qui compte déjà 600 000 soldats pour 12 millions d'habitants. Un autre journaliste décrit la plus grande ville, Srinagar, comme étant quasiment vide, avec des habitants enfermés chez eux par peur des soldats qui procèdent à des interpellations de jour comme de nuit. Que cherchent-ils au juste ces soldats?
Mais il s'agit de boucler. Déjà, il faut rappeler quand même que depuis 1990 et la mise en œuvre de pouvoirs spéciaux pour l'armée, le Cachemire est quand même fréquemment en proie à des actions armées assez conséquentes, avec des arrestations de population et des exactions faites sur la population civile, au-delà des militants armés. Mais là, je parle vraiment de la population civile. Donc là, on est sur une échelle encore supérieure, puisque effectivement, il s'agit en fait de boucler complètement la région. Et le discours du gouvernement est de dire que la situation au Cachemire est normale. Et il y a un article assez cynique d'un journal indien qui s'appelle The Scroll qui montre en fait 21 points mettant en exergue la nouvelle forme de normalité du gouvernement au Cachemire qui va avec justement une absence totale de communication, la possibilité pour la population de se rendre même dans les hôpitaux, les écoles, etc. Donc c'est ça, il s'agit de bloquer en fait toute communication vers l'extérieur pour donner cette impression de normalité.
Officiellement, donc l'Inde dit que tout est calme au Cachemire et que si elle a fait couper les communications, c'est pour éviter les émeutes après l'annonce de la fin de l'autonomie. Annonce faite et décision prise par le Premier ministre indien Narendra Modi, dont il faut dire quelques mots, Charlotte Thomas, pour comprendre ce qui a motivé sa décision. Narendra Modi est présenté comme un ultra-nationaliste hindou. Le Cachemire indien est une région autonome à majorité musulmane, dans un pays donc largement hindou, majorité musulmane à 80%, et cette situation lui est insupportable.
Oui, alors déjà, juste une petite chose, mais il y a des échauffourées parce qu'on sait, alors moi j'avais notamment en tête un papier du New York Times, on sait qu'en fait il y a des manifestations qui sont réprimées extrêmement fort, mais il y a des manifestations qui essayent quand même, des gens qui essayent quand même de manifester et au Cachemire et également au Jammu, ce qui est une autre partie de l'état du Cachemire indien, et ce qui est relativement moins fréquent quand même dans le cas du Cachemire indien. Mais alors moi je préfère personnellement parler de nationaliste hindou.
Et pas ultra nationaliste.
Voilà, oui. Oui, parce que le terme d'ultra permet de mettre les choses un petit peu de façon orientaliste, un petit peu loin, etc. Alors que non, les dérives autour de la revendication d'une citoyenneté, autour d'une identité ethnique définie, c'est quelque chose qu'on voit aussi chez nous et aussi en Europe. Je pense notamment à la Pologne, par exemple, mais pas que. Donc oui, pour le nationalisme hindou, le statut spécial du Cachemire est une aberration depuis 1947, étant donné aussi que le fédéralisme indien est quelque chose qui n'est pas du goût tout à fait des nationalistes hindous qui considèrent que ça peut en fait un peu faire des forces centripètes en fait qui peuvent un peu nier l'unité de la nation indienne qui est vécue comme quelque chose d'organique d'hindou, etc. Donc effectivement après la manière est très brutale, ça il y a pas de doute, mais il y a très peu de surprises sur cette mesure puisqu'elle était annoncée dans le programme électoral du BJP au cours des élections qui ont eu lieu au printemps dernier et qu'elle a toujours fait partie du programme politique du BJP.
Le BJP, le parti nationaliste au pouvoir en Inde.
Oui, voilà. Ouais. Alors, le parti dont est issu Narendra Modi.
Et s'il ne veut pas de musulmans chez lui, pourquoi ne cède-t-il pas le Cachemire au Pakistan ?
Ah bah parce que le Cachemire est un état stratégique, comme le disent beaucoup d'analystes, on a l'impression que le gouvernement, enfin on a l'impression, c'est plutôt une réalité, mais que le gouvernement est plus attaché à un territoire qu'à une population. Or c'est également un territoire stratégique, je rappelle qu'il est traversé par les eaux de l'Himalaya qui produisent de l'électricité pour tout le nord de l'Inde, il y a également beaucoup de ressources primaires agricoles, des ressources touristiques puisque c'est un des endroits, enfin des états indiens les plus touristiques, donc il est hors de question de céder ce territoire aussi pour une question de fierté nationale. Donc c'est hors de propos. Oui.
Le Figaro, la semaine dernière, a publié un reportage qui date de 1948, juste avant que n'explose une des plus sanglantes des guerres qui ont atteint le Cachemire. Reportage dans lequel un reporter part au Cachemire rencontrer le premier du Cachemire, comme on disait à l'époque. Il le décrit comme un solide gaillard de 45 ans environ, avec un visage énergique, vêtu d'une longue redingote de ton noisette, de laquelle s'échappent des pantalons blancs noués à la cheville. Il est coiffé d'un bonnet d'astrakhan et qui lui dit, ce prince du Cachemire, au journaliste, « Jusqu'ici, les deux religions ont vécu en bonne intelligence. Les troubles actuels ont été voulus et créés artificiellement pour des fins politiques. » Est-ce que c'est la même chose aujourd'hui, Charlotte Thomas ?
Ah oui, tout à fait. Bah, c'est exactement ce qu'on retrouve dans ce qu'on appelle le communautarisme. C'est-à-dire que faire rentrer, entre guillemets, pour y aller vraiment à très grands traits, mais faire rentrer dans la tête des gens que, étant donné qu'ils sont musulmans, chrétiens ou hindous, ils ont forcément des intérêts politiques divergents, voire antagonistes et irréconciliables. Mais effectivement, jusqu'à justement cette politisation des enjeux, il n'y avait pas, enfin, les Cachemiris, que ce soit d'ailleurs les Cachemiris ou les autres Indiens dans d'autres États, vivaient en bonne intelligence. Je veux dire, il n'y a jamais de bonne intelligence totale, mais non, il n'y avait pas de trouble en fait, mis en œuvre expressément au nom de la religion. Mais la religion est quelque chose qui est principalement utilisé par le gouvernement, beaucoup plus que par les Cachemiris. Les Cachemiris, eux, qu'ils soient hindous, musulmans ou sikhs, parce qu'il y a aussi une très forte minorité de sikhs, donc les gens qui ont des turbans, se considèrent comme Cachemiris avant de se dire musulmans, sikhs ou hindous, justement.
Alors la folle...
Ça, c'est vraiment une...
La fin de l'autonomie relative du Cachemire, annoncée par le Premier ministre indien, est-ce que, pour vous, Charlotte Thomas, c'est la fin d'une certaine Inde, la fin d'une Inde laïque ?
Ah bah alors, on parle plus de sécularisme pour l'Inde, puisque la laïcité est vraiment très très proche, enfin très propre au cas français, mais effectivement, au-delà du Cachemire, il y a d'autres cas. Il y a un état qu'on appelle l'Assam, au nord-est, où là aussi a été mis en œuvre une politique de redéfinition de la citoyenneté, pour aller très très vite, qui exclut en fait des citoyens musulmans, et il y a également une mesure du gouvernement qui vise à donner en fait le statut de citoyen indien à tout hindou, y compris du Bangladesh ou des pays extérieurs. Donc là, on voit vraiment une mise en œuvre d'une citoyenneté ethnique basée sur la religion, en tout cas la religion au sens, la religion hindoue, et l'expulsion, en tout cas la mise en sommeil et la mise au pas des minorités. Il y a également la minorité chrétienne qui est victime d'attaques par les brigades qu'on appelle les brigades de vigilantisme nationaliste hindou, donc victime d'attaques à Pâques, à Noël, à chaque fois qu'elle se rend visible dans l'espace public. Donc c'est la mise en œuvre d'une citoyenneté exclusive qui fait que votre religion vous délégitime ou pas pour accéder à une citoyenneté indienne.
Alors au-delà de ces guerres, dont celle de 48 qui a fait plusieurs milliers de morts jusqu'à ce que l'ONU installe une commission spéciale en janvier 49 et impose un cessez-le-feu, au-delà de ces guerres, est-ce que vous diriez que le Cachemire a longtemps été une fierté pour l'Inde séculaire, un symbole de pluralisme ?
Oui, disons que dans la tête des pères fondateurs, comme Jawaharlal Nehru, donc le premier ministre indien, qui lui-même était d'origine cachemiri et hindou, hein, effectivement, l'inclusion de ce territoire à majorité musulmane était la mise en exergue, en fait, du caractère, comme vous le disiez, séculariste de l'Inde, au sens où la religion n'est justement pas un motif sur lequel on base la citoyenneté, la nationalité et l'accès aux droits politiques. Donc effectivement, oui.
Donc les nationalistes hindous sont en train, petit à petit, et le Cachemire est, comme vous le disiez, peut-être l'un des territoires avant d'autres concernés par cette grande entreprise, de remodeler l'Inde à leur image, à vous entendre.
Oui, tout à fait, dans un silence relativement assourdissant de ce qu'on appelle la communauté internationale, puisque Narendra Modi met également en exergue les risques de, entre guillemets, terroristes islamiques, terroristes djihadistes, etc., tout ce qui fonctionne, enfin, pour le dire vite, mais qui fonctionne très bien, hélas, à notre époque. Donc, oui, c'est exactement ça, c'est remodeler, en fait, faire une Hindurashtra, donc un royaume hindou, qui est, où les citoyens non-hindous ont des droits bien moindres, pour le dire avec mesure, que les citoyens de confession hindoue, effectivement. Et puis il y a également la manière, puisque cette décision a été prise de manière extrêmement autoritaire, puisqu'on a, sans consultation avec les partis politiques locaux, y compris ceux qui avaient gouverné avec le BJP, et de façon aussi très centralisatrice.
Merci beaucoup, Charlotte Thomas. Je rappelle que vous êtes l'une des chercheuses et chercheurs du collectif Noria, coordinatrice du programme Asie du Sud. Merci d'avoir été avec nous ce matin.